Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal. Lievin Mbuinga à la présentation.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, c'est parti depuis ce lundi 25 novembre avec la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Thème retenu, unis pour protéger les femmes et les filles, nous irons à Bukavu où le lancement de ces journées ont été marqués par une grande cérémonie. L'actualité, c'est aussi cette nouvelle guerre menée par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité contre les inciviques communément appelés Kuluna. Des comités locaux de sécurité seront mis en place. Cette réaction de Jacquemain Chabani intervient au lendemain du décès d'une journaliste de la RTNC suite à une attaque des Kuluna. La 10e édition du forum Makutano a vécu, c'était ici à Kinshasa. Parmi ceux qui ont pris part, qui ont pris la parole, figure l'ingénieur agronome Moumou Azama Mouri. Il va tout nous dire sur le manioc. Vous avez compris, Moumou Azama est l'invité de ce journal. Bonsoir. Sachez d'abord que la question de la sécurité de la paix dans l'est de la RDC est au cœur des échanges en Angola. Les délégations ministérielles du Rwanda et de la République démocratique du Congo se réunissent depuis ce lundi matin à Luanda sous les auspices du gouvernement de la République d'Angola pour analyser la question de la sécurité et de la paix dans l'est. Cette rencontre intervient après la mise en place à Goma le 5 novembre dernier du mécanisme de vérification ad hoc renforcée du processus de Luanda sous la direction de l'Angola. Ce mécanisme vise à assurer un suivi non seulement du cessez-le-feu conclu entre les deux États, mais aussi de leurs accusations mutuelles d'agression et d'attaque. Ce lundi à Luanda, la RDC est représentée par sa ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, le Rwanda pour sa part, par son ministre des Affaires étrangères, Olivier Ndurungireye. Place à présent ce drame assez insolite survenu dans la capitale. Une policière est morte écrasée par le portail à l'ambassade de France. C'est ici à Kinshasa. C'était aux premières heures de ce lundi 25 novembre. Le vigile commis à l'entrée de l'ambassade a lancé par mégarde le dispositif sécuritaire alors que cet agent de la police faisait son entrée. Après une tentative de fuite, l'auteur de cet incident mortel qui voulait s'échapper a reçu des balles et est actuellement hospitalisé. Le corps de la policière est à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Explication donnée par Dieu merci Maï Baziluanga, bourgmestre de la commune de Ngaliema. Il est joué en téléphone par John Chibwabwa.
Il y a des policiers qui sont commis à la garde de l'ambassade, mais il y a aussi le vigile qui accompagne le policier qui sont sur place. Vers la nuit, il y a le vigile qui est là, qui est souvent à l'intérieur de l'ambassade, qui avait actionné les dispositifs sécuritaires pour la sécurité de l'ambassade, sans pourtant tenir compte que la policière qui devait aussi entrer au niveau de l'enclos n'était pas à l'intérieur. Et lorsqu'il a actionné certainement les dispositifs, ça fait en sorte que la dame était prise en sandwich, la commission adjoint était décédé sur place. Son corps est amené au niveau de la morgue du Cinquantenaire. Et comme ils sont nombreux d'aider, et l'autre policier, voyant que son camarade de travail était tombé par les dispositifs sécuritaires que le vigile avait actionné, il a tiré sur le bras du vigile. Et le vigile aussi, il a été blessé au niveau du bras, il est tombé sur place. Le commissariat général a envoyé des éléments sur terrain pour prendre le policier qui avait tiré sur le vigile pour le rappeler au niveau du commissariat général. Le vigile, lui, est interné au niveau de l'hôpital de la place.
Je le disais en titre, lancement ce lundi 25 novembre 2024 de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Thème choisi cette année, unis pour protéger les femmes et les filles. Cette journée n'est pas passée inaperçue au sud Kivu, où le lancement des activités a eu lieu ce lundi à Bukavu, précisément à l'auditorium de la femme à la botte dans la commune d'Ibanda. L'objectif est de sensibiliser le public sur les violences que subissent les femmes et les filles afin que cela cesse. Rachel Kessembangou était sur place. Voici son reportage.
Ces activités de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes sont mises en œuvre par le ministère en charge du genre. Le ministre provincial de la Justice et Droits Humains, Faustin Mayani Shindano, représentant du gouverneur, a lancé cette campagne au Sud Kivu.
Il y a deux dates commémoratives. La première date, c'est celle d'aujourd'hui. Cette date nous appelle tous à nous unir pour dire non à la violence faite à la femme et à la fille. Alors, la date du 10 décembre, également, c'est une date commémorative. C'est la date de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce que nous devons faire, nous qui tenons la politique de la province en ce qui concerne les genres, nous devons essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons prévenir la récidive. Que ce que nous avons vécu dans l'État ne revienne pas encore. La deuxième action, c'est celle d'identifier les acteurs des violences. Que ces acteurs répondent de leurs actes devant les organes de la loi. Et en troisième lieu, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons accompagner les survivants des violences sexuelles pour qu'ils se sentent également intégrés au sein de la société.
Signalons qu'une série d'activités vont couvrir ces 16 jours allant du 25 novembre au 10 décembre. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Du sud, passons au Nord Kivu où la province fait face à une faible mobilisation des acteurs humanitaires pouvant répondre aux urgences des personnes déplacées internes. C'est sur ressort du rapport du gestionnaire des sites. Conséquence, plusieurs secteurs nécessitant de l'assistance sont non couverts. Cette situation a été dévoilée alors que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies visitait le centre collectif des déplacés installé sur l'axe Kanyarushinya dans le territoire de Nirangongo. C'était vendredi dernier. Chris Mukand pour le reportage.
S'adressant à Mme Bintou Keita dans le centre collectif de Kayembe, le gestionnaire de site dit toute la difficulté qu'il y a quand on remonte les données en rapport avec les secteurs non couverts par l'assistance et qu'aucun acteur ne se positionne. Robert Ategeka compte sur l'appui du numéro 1 de la MONUSCO.
Il y a des secteurs qui ne sont pas couverts. On plaide quand on remonte les informations pour qu'il y ait positionnement des partenaires et qu'il n'y a pas de partenaires qui se positionnent. Ça cause un souci. Que les acteurs humanitaires puissent continuer à se mobiliser afin de venir en aide cette population déplacée pour essayer de soulager leurs souffrances.
Pour le cas particulier du centre collectif de Kayembe, il faudrait augmenter la quantité d'eau fournie journellement, passer de 20 mètres cubes à plus ou moins 40, afin de répondre aux besoins de plus de 1000 ménages. D'autre part, certains des déplacés disent ne pas supporter la nourriture fournie par le partenaire. Le gestionnaire des sites estime que la préférence va plutôt à l'argent qu'au vivre.
Souvent, on donne de la nourriture en nature et souvent, on donne de l'argent. Avec les entretiens, avec les ménages, on trouve qu'ils préfèrent l'argent que le vivre. Puisqu'à travers cet argent, ce ménage se procure de la nourriture de son choix.
Chris Mukand, Goma, Radio Kapi.
Nord Kivu encore avec ces chiffres, plus de 1500 ménages de déplacés vivent difficilement dans le site de Lubangira à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Constat fait par Radio Kapi dimanche à l'occasion de la visite sur place du directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme de la MONUSCO en mission dans la région depuis vendredi. Autre constat, tous les déplacés demandent une seule chose au gouvernement, le retour de la paix. Le point avec Guylaine Kassassia.
Les sites des déplacés de Lubangira à Oicha hébergent des femmes, des hommes et des enfants répartis en plus de 1749 ménages. Dépourvus de presque tout, ces déplacés mènent une vie misérable, comme l'explique ici Imelda Kavira Charonere, la présidente des déplacés d'Oicha.
C'est une vie misérable que nous menons ici. Nous attendons chaque jour des humanitaires jusqu'à nous fatiguer. La dernière assistance était du PAM il y a 7 mois. Depuis lors, rien ne nous a été donné. C'est pourquoi même plusieurs d'entre nous s'adonnent au vol. Surtout lorsqu'il s'agit de femmes, si un homme l'attrape dans son champ, il la viole plutôt que de la tuer. Nous avons seulement besoin de la paix pour retourner chez nous.
Il est urgent que le gouvernement congolais fournisse davantage des efforts pour écouter le séjour de ses citoyens dans ces lieux de refuge, a dit pour sa part Patrice Var, le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme de la MONUSCO.
Je sors tout simplement avec un double sentiment. D'abord de frustration que ces personnes soient obligées de vivre loin de leur maison, mais aussi rassurés par le fait qu'ils n'ont qu'une seule demande, celle d'avoir la paix. C'est très important qu'on conjugue nos efforts avec celle des autorités pour écouter leur séjour ici et qu'ils retournent dans leur milieu habituel.
Ce site de déplacés est érigé à Oicha depuis plus de 5 ans. Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Encore des chiffres dans ce journal, mais sur toute autre chose, plus de 400 millions de dollars américains pour faciliter l'accès à l'eau potable dans quatre provinces de la RDC. Il s'agit du Kwilu, Kasaï, Kasaï Central et Kasaï Oriental. La Banque mondiale qui finance ce projet appelle les entrepreneurs congolais à s'impliquer dans les activités de terrain dans la première phase de ce projet. Les conditions d'éligibilité leur ont été communiquées ce lundi au cours d'une rencontre entre la Banque mondiale, le gouvernement congolais et les entrepreneurs. Détail avec Emmanuel Elamej Wakabedi.
La première phase de ce projet concerne plus de 3 millions de personnes pour leur accès à l'eau potable et 2 millions d'habitants pour l'accès à l'assainissement. La Banque mondiale finance ce projet dans le cadre du 6e objectif de développement durable, ODD.
La première phase de ce programme bénéficie d'un financement de 400 millions de dollars pour les provinces de Kwilu, Kasaï, Kasaï Central et Kasaï Oriental. Ce programme s'inscrit dans le partenariat stratégique. Il vise à orienter le financement de notre institution vers les projets ayant un impact direct sur la population congolaise.
Pour faire aboutir ces projets, les entreprises congolaises doivent s'en approprier, surtout le secteur privé. Le ministère congolais des hydrocarbures et électricité s'en réjouit.
L'objectif majeur de ce salon, c'est de pouvoir amener les micro-entreprises congolaises de pouvoir s'approprier et être intervenants dans la réalisation de ce projet. On peut avoir quelques-uns qui peuvent peut-être être des fournisseurs de gros tuyaux ou de sous-traitance.
Signalons que si le secteur de l'eau n'est pas suffisamment pris en compte en RDC, le pays risque de ne pas atteindre d'ici 2030 l'objectif de développement durable numéro 6 sur l'accès pour tous à l'eau et assainissement.
L'examen de la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures envoyée à une date ultérieure, il était prévu pour ce lundi 25 novembre 2024. D'après un communiqué signé par le rapporteur Jacques Ndjoli, le bureau de l'Assemblée nationale a transmis la motion de défiance le vendredi 22 novembre 2024 au service de la première ministre ainsi que du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics. Ces derniers n'ont pas pu réceptionner ce courrier en raison de leurs horaires de travail, soucieux de respecter les prescrits des articles 146 et 147 de la Constitution ainsi que 235 et 136 du règlement intérieur de l'Assemblée. Le bureau communiquera la date du débat et du vote après la transmission formelle. Bientôt, des comités locaux de sécurité pour lutter contre le banditisme à Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Jacquemain Chabani, qui s'en va en guerre contre la criminalité, vient de lancer une opération en vue de baisser le taux de criminalité urbaine dans la capitale. Il a dit hier dimanche, lors du briefing de presse qu'il a co-animé avec son collègue de la communication et médias à Kinshasa. Le patron de la territoriale a également annoncé la mise en œuvre des comités locaux de sécurité en vue de dissuader les bandits communément appelés Kuluna. On écoute le vice-premier ministre en charge de l'intérieur. Les propos de Jacquemain Chabani sont recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Au niveau du ministère, nous sommes en train de faire en sorte que notre police ait les moyens de sa politique pour mettre fin au phénomène Kuluna. La police ne travaille pas seule. C'est pourquoi nous avons signé les partenariats avec la justice en termes des initiatives des audiences foraines. Nous faisons des séries de réunions pour que le processus de la réforme de la police aille de l'avant pour mieux sécuriser nos populations. Notre objectif est d'éradiquer le phénomène Kuluna. Bientôt là, nous allons lancer la campagne de mise en place des comités locaux de sécurité au niveau des communes, des quartiers et des rues. Nous allons mettre en place ces dispositifs à travers toutes les provinces parce que le phénomène de banditisme urbain est alimenté par les mêmes gens des quartiers qui insécurisent leurs concitoyens.
Cette réaction du vice-premier ministre de l'Intérieur intervient au lendemain du décès d'une journaliste de la RTNC de suite d'une attaque des Kuluna la semaine dernière, non loin du camp Kokolo. De son côté, le ministre de la Communication et Média, Patrick Muyaya, encourage la population à s'impliquer dans la sécurisation de la ville en dénonçant ces bandits qui se cachent dans la population. Nous parlons à présent de cet incident survenu dans le Congo central. 4 personnes, dont 3 femmes et 1 enfant, habitant le secteur de Lula-Lumene, dans le territoire de Kivula, au Congo central, ont été enlevées par des présumés Mobondo. Ces personnes étaient en route vers Popokabaka, dans le Kwango. L'administrateur du territoire de Kivula, qui livre l'information, indique que le véhicule transportant ces victimes était tombé dans une embuscade au niveau du village Ngana, dans le territoire de Kivula. Victor Lusaku appelle les autorités à renforcer la présence des forces de l'ordre entre le territoire de Kimvuka et la province du Kwango où la milice Mobondo est active. Le point avec Nana Pluriche Mambu.
C'est sur la route appelée communément Nzela et Simandaku, au niveau du village Ngana en secteur de Lulalumene en Kimvula, que les véhicules transportant ces victimes en partance des villages Kinsafu dans le secteur de Lubisi a été pris au piège par les miliciens Mobondo. Après avoir menacé à mort les passagers, ces hors-la-loi ont enlevé 7 personnes, dont 5 femmes, un enfant de 2 ans et un homme. Ce n'est qu'hier dimanche 24 novembre, soit 14 jours après l'enlèvement, que 2 femmes parmi les 7 captifs ont regagné Kimvula. Elles affirment avoir pu se soustraire d'autres captifs retenus par les Mobondo au village Milando en territoire de Popokabaka dans la province du Kwango. Ces femmes ajoutent avoir été violées brutalement par ces miliciens et que l'homme qui a été enlevé avec elles a été exécuté chemin faisant. Pour Victor Lusaku, la libération des 4 autres captifs nécessite des opérations militaires, au cas contraire ils seront aussi tués. La même source indique que les pelotons de la 12e région militaire qui se trouvent dans les secteurs de Lulalumene, frontaliers avec le Kwango, pour sécuriser la population face aux incursions des miliciens Mobondo, sont butés à un problème d'effectifs, de mobilité et des moyens de communication. Matadi, Nana Pluriche Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le nombre d'enfants recrutés par des bandes armées a augmenté de 70% en Haïti sur un an, a alerté dimanche 24 novembre l'UNICEF. Ce pic sans précédent enregistré dans les deuxièmes trimestres de 2023 et 2024 montre une aggravation de la crise de la protection de l'enfance, s'inquiète le Fonds des Nations Unies pour l'enfance dans un communiqué.
L'invité.
La 10e édition du Forum Makutano a vécu, c'était ici à Kinshasa. Parmi ceux qui ont pris part, qui ont pris la parole, figure l'ingénieur agronome Moumou Azamamouri. Il y a évoqué les aspects socio-économiques du manioc. Il appelle les Congolais et les autorités du pays à mieux investir dans le manioc et à ne pas se limiter qu'à son aspect alimentaire. Dans cette interview accordée à Babel Mpongo Massimango, Moumou Azamamouri nous fait le point sur son apport à Makutano. Il nous fait aussi sa lecture de ce forum annuel qui réunit décideurs, investisseurs et entrepreneurs. Suivez.
Monsieur Moumou Azamamouri, bonjour.
Bonjour madame.
Vous venez de prendre part à la 10e édition de Makutano. Qu'est-ce que vous avez retenu de façon générale?
Non, nous avons retenu que les organisateurs de Makutano ont fait un bon travail. Ils ont permis la rencontre de plusieurs personnes et dans différents secteurs. Et nous étions plus là pour le secteur agricole qui a quand même réuni certaines têtes importantes. Et il faut quand même préciser qu'on a eu la présence du président honoraire nigérian Olusegun Obasanjo, plus certains acteurs nationaux.
Personnellement, quelle a été votre contribution?
Ma petite contribution a été un exposé sur le manioc. On a plus vu l'aspect socio-économique du manioc.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire l'Africain en général, le Congolais en particulier, on a tendance à voir le manioc comme nourriture seulement. Or, le manioc entre aujourd'hui dans l'agro-industrie qui touche différents secteurs qu'on ne peut pas imaginer. Aujourd'hui, à travers le monde, on compte plus ou moins 2000 produits dans lesquels on retrouve du manioc. Le manioc sous forme amidon, pur ou modifié. On peut toujours voir encore l'agroalimentaire avec les boulangeries, la panification. Actuellement, la RDC a pu normaliser. Il y a des normes sur l'incorporation du manioc dans la production du pain. Les études montrent que incorporer au moins 10% de manioc dans la production du pain, la RDC épargnera minimum 300 000 dollars américains. Si vous prenez la Thaïlande, qui est le troisième producteur mondial de manioc après la RDC, et la RDC vient en deuxième après le Nigeria, Le Nigeria et la RDC produisent principalement pour l'alimentation. Or, la Thaïlande produit pour la transformation et l'exportation. Aujourd'hui, le Nigeria est premier producteur de manioc et à moins d'un million de kilomètres carrés. Mais il produit 20 millions plus de tonnes que la RDC. On n'exploite pas réellement l'aspect agricole comme il le faut. Si on doit investir sérieusement, on peut copier la Thaïlande. La Thaïlande exporte l'amidon. En Afrique, la tonne de l'amidon du manioc est vendu dans la fourchette de 300 à 400 dollars. Mais le même amidon est vendu 10 fois plus cher en Chine, parce que la Chine, elle seule, consomme 40% de l'amidon du monde. Toujours dans l'aspect transformation du manioc, vous avez le manioc en produits cosmétiques, le manioc dans la colle, dans la production de papier, et c'est du papier de qualité, le manioc dans la production du triplex de bois. En pharmacie, en pharmacopée, on ne parle même pas, parce que c'est vraiment l'une des bases dans plusieurs produits, mais nous, on n'exploite pas le manioc. Le manioc peut nous permettre d'avoir du biocarburant. Il suffit de bien investir, et ce n'est pas des investissements importants. Et nous savons la difficulté que nous avons dans certains coins du pays pour être approvisionnés en carburant.
Pendant Makoutano, est-ce que vous avez eu du répondant par rapport à ce que vous avez développé sur le manioc?
En tout cas, il y a plusieurs personnes qui étaient intéressées. Il y a eu des contacts qui ont été partagés, espérant que les retombées suivront.
Et alors, en termes de perspective, est-ce que Makoutano est vraiment bénéfique pour les entrepreneurs agricoles? Et bien, s'il faut booster ce forum, qu'est-ce qu'il faudrait pour vous?
Bon, pour ce panel, Makoutano a réuni un bon nombre d'acteurs. Il y a eu les politiques, les grandes structures et les grandes organisations. Mais personnellement, j'ai constaté un maillon absent, les paysans. Or, l'agriculture du Congo est soutenue par les petits paysans. Il faudrait que Makoutano essaie de voir comment organiser des rencontres, des enquêtes, récolter les réels problèmes de ces paysans et mieux canaliser les besoins, les visions de ces paysans pour qu'ils soient mieux entendus et compris par nos politiques. Parce qu'il ne faudrait pas oublier une chose. Hein. Le Congo rêve grand et aime investir dans des grandes choses. Et ces grandes choses, de fois, nous montrent que ça ne marche pas. Or, c'est possible de partir sur plus petit, mieux organiser les petits. On peut réunir ces ménages agricoles, ces paysans, en coopérative, en organisation paysanne, et créer des grandes sociétés.
Merci à Monsieur Azama Amori d'avoir répondu à nos questions.
Je vous remercie, Madame Pongo.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Pelé Kipela Mondo, à Richard Junior Kamunga et à Debs Vita.